19h05, c'est le moment de parler avec Philippe Quentin qui est avec nous. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
Philippe, écoute, on vient d'avoir un communiqué de la part de la Ligue canadienne de football. Je veux juste en prendre connaissance et je veux avoir ton opinion là-dessus. Et tu vas comprendre que la Ligue canadienne, des fois, c'est pas clair. OK, écoute bien. Suite au match où on a dû interrompre et annuler le match, en fait, donner la victoire aux Rough Riders de Saskatchewan au troisième quart en raison des orages, tout ça, vous en souvenez, victoire des Rough Riders 17-10 face aux Alouettes de Montréal. Bon. Exact. Il y a eu beaucoup de tonnerre pendant ce match-là. On a évacué tout le monde. Tout ça pour dire, c'est qu'il y a eu rencontre entre la Ligue canadienne et l'Association des joueurs de la Ligue canadienne de football au sujet de ce protocole-là. On débute le texte en disant « Aucun changement au protocole n'est anticipé pour le reste de la saison 2019. Les parties prenantes se rencontreront pendant la saison morte afin de réévaluer le protocole. » Ça, c'est un. Là, deuxièmement, dans le texte un petit peu plus loin, on dit on a échangé, on pense que avec le protocole qui était en place, c'est la meilleure décision qui a été rendue. Cependant, la Ligue canadienne reconnaît entièrement que la communication avec l'Association des joueurs aurait pu être meilleure au cours du processus et ces problèmes de communication étaient pleinement discutés et résolus entre les parties. Maintenant, ça devient encore moins clair un petit peu plus loin. Finalement, nous avons échangé sur l'idée de revisiter et de possiblement d'amender le protocole dès maintenant. Nous avons jugé que la voie la plus prudente à emprunter était de réunir les parties prenantes, les dirigeants des équipes et de la Ligue et les représentants de l'Association des joueurs, les directeurs généraux, les entraîneurs et les officiels au cours de la saison morte afin de réévaluer le protocole. Ils répètent, c'est pourquoi aucun changement. Mais ils nous disent, nous avons échanger sur l'idée de revisiter et possiblement d'amender le protocole dès maintenant. Mais on dit qu'il n'y aura rien cette année, ça sera dans la saison. Bon, t'sais, dans l'ordre d'être pas clair, la Ligue canadienne, c'est pas pire.
Non, c'est assez spécial. C'est un peu comme les fenêtres exclusives de négociation pour de potentiels acheteurs des Alouettes. C'est encore difficile un peu à comprendre. C'est comme si ça se bousculait au portillon.
Ben oui.
Il me semble que s'il y avait eu des acheteurs qui étaient arrivés avec véritablement le chèque espéré pour assumer les pertes probables au cours des prochaines années, probablement que l'entente aurait déjà été réglée. Mais là, bon, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on y a pensé, peut-être changer le règlement en cours de saison, mais finalement, on le fera pas. Mais c'est clair que cette décision-là d'annuler la rencontre aussi rapidement, et le délai n'a pas été excessif. Là. Jérémy, combien de matchs de baseball on a vu reprendre après deux heures et demie? Combien de matchs de tennis au US Open au mois de septembre quand il se met à pleuvoir à 4 heures? Des fois, ils reprennent ça bien plus tard. Alors, j'ai mal compris cette précipitation à mettre fin à la rencontre. Et parfois, ça prend malheureusement deux équipes qui en sont victimes. Dans ce cas-ci, une équipe, en fait, celle qui perdait le match au moment où on l'a arrêté, les Alouettes. Mais espérons qu'on mette de l'ordre dans cette réglementation qui m'apparaît pas avoir été réfléchie jusqu'au bout.
Un club qui a un propriétaire et l'autre club qui n'a pas de propriétaire. Les Alouettes, pas de propriétaire. Ce soir-là, si on dit au propriétaire des Alouettes, c'est-tu quoi, on va arrêter le match maintenant, ça se peut que le propriétaire des Alouettes fasse « Qu'est-ce que vous me dites là? Attendez une minute. Hey, ça n'a pas de bon sens, puis on va négocier. »
Oui, puis ça se peut qu'on puisse acheter du temps un petit peu, peut-être, avec les prévisions météo. Qu'est-ce qu'on annonce précisément? Est-ce que les cellules d'orage sont en train de s'éloigner du stade Percival Molson ou pas? T'sais, on aurait pu certainement gérer cette situation-là de manière un petit peu plus sensée.
Sauf que là, le propriétaire, c'est Randy Ambrosie, la Ligue canadienne. Voilà. C'est difficile dans ces cas-là.
Okay. C'est toujours dur une équipe sous tutelle. Hein? À tout point de vue, la direction n'a pas vraiment les coups des franches. Les joueurs, le personnel ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et puis les fans, on en a parlé toi et moi la semaine dernière. C'est complètement, on les tient dans l'ignorance la plus totale, un manque de transparence éhonté. Pour une ligue qui se dit moderne, avec un commissaire qui voulait être moderne en arrivant, c'est un échec sur toute la ligue.
Ouais, je vais te dire, sincèrement, je pense que c'est un manque de respect envers, un, l'organisation, deux, la population, trois, les gens d'affaires qui investissent dans l'aventure des Alouettes. C'est un manque de respect. À un moment donné,
Donnons-leur juste.
Un peu de transparence, s'il vous plaît.
Voilà,
bon, définitivement. Exactement. Bon, OK, laissons la Ligue canadienne de côté. Parlons de la richesse de la Ligue nationale de hockey. Parce que là, Bill Daly parle d'une possible Coupe du monde en février 2021. Il y a du bidou. On aime l'argent du côté de la Ligue nationale de hockey.
Ouais. Moi, j'ai lu cette nouvelle aujourd'hui, un texte très intéressant de Chris Johnston sur le site de Sportsnet. Alors, essentiellement, ça nous dit que Bill Daly, qui est commissaire adjoint de la Ligue nationale de hockey, se dit très confiant dans les pourparlers en vue de renouveler la convention collective. Il dit qu'il n'y a pas de débat orageux à l'horizon, que les choses vont vraiment bien, au point où il envisage la tenue venue d'une autre Coupe du Monde. On se souvient de celle de 2016 à Toronto, là, qui avait duré 2 semaines, qui avait précédé la saison. Mais là, ce serait en 2021, au mois de février, et ce serait un court tournoi. On annulerait le match des étoiles. On profiterait de cette fenêtre-là dans le calendrier pour présenter une Coupe du Monde. Et il dit peut-être 2 ou 3 jours de plus là, que le congé habituel, un court tournoi. Mais tu sais, je lis ça et tout le cynisme de la Ligue nationale m'apparaît dans tout ça. Pourquoi, Jérémy, la Ligue nationale n'est pas allée à Pyeongchang aux Jeux olympiques? Officiellement, bien sûr. Hein, les raisons qui ont été évoquées par la Ligue nationale de hockey.
Parce que c'était un calendrier trop chargé.
Voilà. Puis on voulait surtout pas faire une compétition internationale au milieu de la saison parce que ça chamboulait le calendrier. Puis bon, c'était beaucoup trop long. Admettons que le tournoi qu'on envisage est plus court, mais je vais revenir là-dessus dans une autre dans la suite de mon propos. Mais une autre des raisons qui était évoquée, c'était aussi le danger des blessures. Hey, les propriétaires d'équipe, là, ils veulent pas que leurs joueurs aillent se faire blesser dans un tournoi international. Souvenez-vous de Tavares à Sochi, qui avait été blessé, qui avait pu rejouer de la saison pour les Islanders de New York. Puis aucun propriétaire d'équipe ne veut courir ce risque. Mais là, semble-t-il que quand le tournoi, ça fait l'affaire de la Ligue nationale, la notion de blessure, on n'en parle plus, c'est évacué. Est-ce qu'il y a une garantie qu'il n'y aura pas de blessés dans cette petite Coupe du Monde du mois de février, que personne ne va subir une blessure au genou qui va le mettre absent jusqu'à la fin de l'année? Il n'y a aucune garantie. Mais là, on n'en parle plus. Ça n'existe tout simplement plus. Semble-t-il que les propriétaires, là, les craignent que les joueurs se blessent, c'est simplement aux Jeux olympiques, mais pas dans une Coupe du Monde. D'autre part, de faire une Coupe du Monde qui va durer une semaine, mais de quoi on parle au juste? Il va y avoir combien d'équipes? Une Coupe du Monde, un championnat mondial qui a moindrement un peu d'envergure. Il faut que ça se bâtisse un peu au fil d'une ronde préliminaire et puis après ça, de quart de finale, de demi-finale, de finale. Il faut qu'il y ait un peu de substance autour de ça. Là, c'est quoi l'idée? On n'a aucun détail. Il n'y a rien qui a été mentionné. Mais si on parle d'un tournoi d'une semaine, on parle de quoi? 4 équipes au maximum. On ne peut pas faire un tournoi à 6 ou 8 équipes. 4 équipes, quoi? On va faire Canada, États-Unis, Russie, puis tous les autres vont porter les couleurs de l'équipe du monde ou l'équipe Europe ou je ne sais quoi. Tu sais, puis là, on va jouer quoi? 1 match, 2 matchs, puis on va se retrouver en finale 2 jours plus tard. Sauf que ça fait pas sérieux. Et ce que ça fait, on est à la recherche d'une machine à imprimer de l'argent. J'imagine qu'encore une fois, on va jouer tous les matchs à Toronto parce que là-bas, ils sont à peu près sûrs de vendre les places puis les loges à haut prix. Mais je trouve que c'est éminemment cynique d'entendre la Ligue nationale qui a privé les amateurs de hockey. Et là, quand je dis la Ligue, je parle des propriétaires d'équipe et du commissaire. Ils ont privé les amateurs de hockey en 2018 du merveilleux tournoi olympique qui existe depuis 1998. Ils ont privé les amateurs, mais ils ont privé les joueurs aussi, parce que tous les joueurs actuels, toutes les jeunes vedettes de la Ligue et même les vétérans, ils ont tous grandi en regardant le tournoi olympique à la télévision. Ils sont de cette génération-là. Donc, ils ont vu depuis, dès 98, ça a commencé. Il y a eu un tournoi fantastique en 2010 à Vancouver. À Sochi, ça a été extraordinaire en 2014. Et là, tout à coup, à Pyeongchang, parce que ça faisait plus l'affaire de la Ligue nationale pour des raisons monétaires et surtout parce qu'ils n'avaient rien à gagner en termes de marché en Corée du Sud, ils ont dit, on n'y va pas, puis ils ont évoqué des prétextes, blessures, interruption dans le calendrier. Mais là, quand ça fait leur affaire, puis que c'est leur produit, puis que l'argent va leur revenir, les blessures, ça compte plus, l'arrêt dans le calendrier, ça compte plus. On va faire un petit tournoi cool d'une semaine. Merci, bonsoir. Je trouve ça pas de bon sens.
Et encore une fois, on va ramasser un paquet de bidoux qu'on va séparer entre les propriétaires. Tu sais, les propriétaires, les blessures, ça compte quand eux, ils n'ont pas d'argent. Quand ça compte pas quand eux vont être capables de ramasser de l'argent avec ça. T'sais, c'est comme
exactement,
ça.
Exactement. Puis, tu sais, on sait comment ça va se passer. S'ils le font, ça va fonctionner parce qu'on est tous pareils. Quand ça va commencer, hey, disons qu'ils font une équipe Canada. Il va y avoir une équipe Canada, là, c'est sûr. Qui va jouer dans l'équipe Canada? Est-ce que Carey va être là? Oui ou non? On va tous en parler, c'est sûr. Donc, ils vont réussir l'opération au point de vue marketing, même si le tournoi va être un tournoi, à mon avis, de deuxième ou de troisième niveau. Mmh. Tu sais, celui de 2016, là, oui, il y a eu des matchs excitants, mais on sait fort bien que les joueurs de hockey, là, entre le 15 septembre et le 1er octobre, c'est pas là qu'ils sont au sommet de leur forme.
Non,
là,
clairement. Pire que ça, Philippe, c'est-tu quoi? C'est que si on fait le tournoi pendant la saison, les joueurs arrêtent pas de se plaindre du calendrier tellement chargé, du voyagement, les gars sont épuisés. Tu vas rajouter en plus... À tout ça, tu vas rajouter un tournoi, une Coupe du Monde. J'ai un doute.
Il y a des joueurs, Jérémy, qui ne sont pas allés au match des étoiles. Au match des étoiles. On s'entend, il n'y a pas de mise en échec. C'est un gros party. Ils ne sont pas allés là parce qu'ils étaient trop fatigués. Mais là, on va leur demander de jouer une Coupe du Monde d'une semaine. qui théoriquement devrait être à un petit peu plus haute intensité qu'un match des étoiles à 3 contre 3 à 4 équipes. Tu sais, moi, je dis OK, bravo, mais assumez-le, puis allez aux Olympiques aussi, puis organisez le calendrier en conséquence. Mais là, ça a l'air pas tellement bien passé.
Parlons maintenant de la nouvelle convention collective. Ouais. J'aime bien les propos de Bill Daly quand il parle d'un optimisme prudent.
Ouais.
Ça se définit comment, c'est un optimisme prudent?
C'est que l'immeuble n'est pas en feu.
Okay.
Je pense que c'est ça que ça veut dire. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'insatisfaction au niveau des joueurs par rapport aux sommes qui sont gardées en fiducie. Là. C'est-à-dire que pour faire une explication rapide, un joueur qui signe un contrat, faisons un chiffre rond, de 10 millions par saison, il ne reçoit pas 10 millions. La Ligue en garde une partie pour vérifier si à la fin de l'année, les livres vont être équilibrés entre les revenus et les dépenses. Parce que les revenus doivent être partagés 50-50. 50% propriétaires, 50% joueurs. Alors, il y a des équilibres qui doivent se faire en fin d'année, puis pour être sûr qu'on n'ira pas redemander de l'argent aux joueurs, ben on en garde une partie de leur salaire. Alors ça, les joueurs, c'est ce qu'on appelle le fameux escrow. Alors, les joueurs sont en colère contre ça. Donc là, ça, Daly, il en parle pas. Mais il dit qu'il y a un optimisme prudent. Maintenant, il y a deux dates là à retenir qui sont très, très, très importantes, Jérémy. Première date, c'est le 1er septembre prochain. 1er septembre prochain, la Ligue nationale de hockey a le droit de dire si elle veut mettre un terme à l'actuelle convention collective à la fin de la saison qui va commencer là, au mois d'octobre. Autrement dit, est-ce qu'elle mettrait un terme à la convention collective? Ça serait au 15 septembre 2020. Et si elle dit non, nous autres, on est prêts à continuer, la convention pourrait aller jusqu'à la fin de la saison 21-22. Mais là, deux semaines plus tard, le 15 septembre, c'est aux joueurs de dire si eux, ils veulent mettre un terme à la convention collective dans un an. Alors, ce sont les dates importantes. Moi, j'ai l'impression que les propriétaires d'équipe vont dire non. On est prêt à continuer jusqu'à l'expiration qui était prévue au départ, c'est-à-dire jusqu'en 2022. Mais je serais pas étonné, moi, que les joueurs, pour mettre un petit peu de pression, décident de dire non. Nous autres, on préfère mettre fin à la convention collective à la fin de la saison prochaine parce que ça leur permettrait de mettre beaucoup de pression sur les propriétaires pour négocier une nouvelle entente. Et moi, il me semble que stratégiquement parlant, être les joueurs, ça serait une décision à laquelle, je ne penserais pas très longtemps. Pour moi, ça serait une décision qui tomberait sous le sens. C'est-à-dire que tu dis, nous, on exerce notre droit de mettre fin à la convention collective à la fin de la saison qui commence là, qui commence en octobre prochain. Et là, ça vient de créer un climat pour accélérer une négociation, mais pas dans l'urgence, pas dans le cadre d'un conflit de travail, pendant la saison, de faire des négociations, puis essayer de t'entendre pour protéger la convention.
Ça sera à voir, Philippe. Si jamais on était dans le même syndicat, je te dirais, je suis d'accord avec toi. À voir.
Tu votes, OK, on vote.
On
lève la main.
On lève la main. Parce que quand tu vois des équipes tenter de contourner le plafond salarial ou contourner le plancher salarial en amenant des joueurs blessés, moi, je suis joueur, là, je dirais, OK, il y a un petit quelque chose qui marche pas là-dedans.
Il y a des choses à régler dans cette convention. Puis les joueurs ont certainement des raisons légitimes de poser des questions.
Bon, parlons de la NFL, de M. Goodell et de Jay-Z et Rock Nation, maintenant, qui travaillent pour la NFL, quand même bizarre, hein, de voir Jay-Z qui appuyait Kaepernick, maintenant qui travaille avec Goodell. Bizarre, quand même, les choses.
Là, c'est très décevant. Moi, je comprends pas trop encore. Je trouve que sa conférence de presse à Jay-Z a pas été extrêmement convaincante. J'ai trouvé qu'il n'a pas été extrêmement solidaire non plus que de Kaepernick. Bon, pour faire une histoire, juste pour placer ça en perspective, alors Jay-Z, bien sûr, le mari de Beyoncé, qui est un des principaux acteurs dans l'industrie de la musique avec sa compagnie Rock Nation, a refusé de faire le show du Super Bowl il y a un an ou deux en appui à Kaepernick. Il a dit, hey, si Kaepernick n'a pas de travail dans la Ligue nationale de football, c'est pas vrai que moi, je vais aller faire un show. Mais là, finalement, il s'entend avec la Ligue nationale de football pour devenir leur stratégiste musical. Alors, c'est lui qui va être un peu en charge de concevoir le show du Super Bowl, donc un droit de regard sur l'artiste qui va être retenu pour le traditionnel spectacle de la mi-temps qui attire quoi, 100 millions de personnes à la télévision. Ils vont créer des chansons inspiration, un concours, des playlists. Bon, tu vois, genre un peu tout ce qu'on peut décliner là au niveau de la musique en termes d'initiative un petit peu originale. Mais encore une fois, le problème, c'est que Jay-Z, lui qui appuyait Kaepernick, là, il vient de le laisser, là, parce que Kaepernick n'a toujours pas de job. Puis d'ailleurs, Kaepernick n'a pas l'air tellement content là, de ça. On l'a vu sur Twitter avec sa réaction. Il était poli, tout ça, mais on sent qu'il est assez déçu. Mais ce que j'ai particulièrement pas aimé dans la réaction de Jay-Z, c'est quand il a dit, il s'est fait poser beaucoup de questions à ce sujet-là. « Ouais, mais t'es pas en train de lâcher Kaepernick. » Puis il a dit, écoutez, moi, je pense qu'il faut qu'on regarde en avant. Ça, je suis d'accord, il faut regarder en avant. Il dit, on a une chance de faire beaucoup de bien. Oui, bravo, on est tous pour ça, de changer les choses. Oui, bravo encore une fois. Il dit, donc, on a la chance de faire de tout ça, ou sans ça, de dire « Ah, c'est épouvantable, on peut rien faire parce que Colin n'a pas de job. » Tu sais, je trouve que ça, là, c'est un argument que je trouve tellement court. Il y aurait eu moyen, je pense, de faire les deux. Je pense que Jay-Z, là, il y avait assez de poids politique et la Ligue nationale de football le voulait tout le temps, qu'il aurait dû dire, il aurait pu dire « Écoutez, moi, là, je vais être prêt à signer avec vous. Je vais être prêt à m'en aller avec vous pour essayer de redorer votre blason à la Ligue nationale de football, de mettre ma propre réputation, mon image de marque à votre service, mais régler le cas de Kaepernick avant. Arrêtez de le blackbouler, puis allez-y, puis prenez-le, puis donnez-y une véritable chance. » Moi, je pense que la Ligue nationale de football a réagi à ce moment-là, parce que pour eux autres, c'est tellement gros d'avoir Jay-Z. Ils doivent, moi, je suis convaincu qu'ils ne doivent même pas revenir comment ça a été facile, quelque part, d'obtenir son appui dans tout ça. Et là, Kaepernick se retrouve plus que jamais abandonné par à peu près tout le monde.
Sauf que la vraie question, c'est combien ça paye?
Faire
un spectacle de la mi-temps Super Bowl, t'es pas payé pour faire ça. Tandis que là, être le stratégiste en chef musical pour la NFL, ça doit payer quelques bidous.
Et ça doit pas être un travail bénévole. On n'a pas eu de détails là-dessus. Tout ce que j'ai lu dans les articles à ce sujet-là, Jérémy, c'est que les termes de l'entente n'ont pas été dévoilés. Mais je pense que si ça avait été un travail pro bono, si Jay-Z avait fait « Hey, je fais ça moi pour pro bono, pour rendre service », puis je pense que ça, on l'aurait dit, mais il n'y a rien qui a été dit. Alors, on le sait pas. Bon, vous voyez combien peut être payé. Mais moi, encore une fois, je trouve que Roger Goodell, aujourd'hui, il doit avoir un grand sourire. Il doit dire « Hey, Kaepernick, personne n'en parle trop. Jay-Z, qui luttait pour défendre ses droits, vient de se rallier à nous. Kaepernick est plus isolé que jamais. » L'affaire est réglée.
Incroyable quand même. Philippe Quentin, je te remercie. Hey, on t'écoute lundi avec Patrick Lagacé.
Oui, tout à fait. On commence lundi. Oui, tout à fait.
On te souhaite une bonne saison.
Québec maintenant. Merci beaucoup.
Bonne saison, Philippe. Merci beaucoup.
Salut.
Merci. Au revoir. On se laisse quelques instants. Il a été le héros du dernier match pour l'Impact face à Calgary. Il a marqué de la tête. Jackson est avec nous au retour, mais surtout, on va lui poser la question. Comment se passe ta relation avec Rémi Garde? Yeah. Welcome to the bright light, baby.